Radio Ndekeluka, le journal en français Sango, une présentation de Inès Lorngopo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania Baudet, bienvenue à tous dans cette édition. À la une, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme n'a pas signé un accord de partenariat avec le parti politique KNK. Une réaction pour couper court à la désinformation sur le but de la rencontre d'hier avec François Bozizé, président du KNK. Le Bureau national des taximotos plaide pour l'assouplissement des mesures prises contre les mototaximens, des mesures qui les empêchent de circuler librement après leur enthousiasme samedi dernier en intégrant le cortège de François Bozizé. Et puis cette inquiétude des habitants du PK5 face à la montée du Covid-19 en Centrafrique, un reportage à suivre dans ce journal. Football, plus de 20 jours déjà en détention au Gabon. L'international centrafricain Amores Dertin attend son procès.
Ouvrons ce journal, Inès, avec cette réaction de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme pour couper court aux rumeurs entretenues autour de sa rencontre hier avec le KNK.
Selon Joseph Bindoumi, président de la LCDH, la rencontre d'hier avec le parti KNK n'a rien d'un partenariat ou d'un accord avec ce parti politique. Les deux organisations qui exercent dans des buts distincts ont échangé sur des questions liées à la sécurité, la situation sociopolitique et les droits de l'homme. Elles ont signé un communiqué final à la fin de la rencontre. Joseph Bindoumi.
La Ligue centrafricaine des droits de l'homme a reçu le parti politique KNK sur sa demande formulée officiellement le 20 avril 2020 à l'effet de discuter avec la Ligue centrafricaine des droits de l'homme des grandes questions de l'heure, à savoir la situation sociopolitique, la situation sécuritaire, la question des droits de l'homme et les menaces qui, semble-t-il, pèse sur le président fondateur du KNK, François Bozizé. Et donc, à la suite de nos échanges, nous avons travaillé et soumis nos deux signatures à un communiqué final. Nous avons entendu dans certains médias que nous avons signé un accord. Il ne s'agit pas d'un accord politique, il ne s'agit pas d'un partenariat, mais il s'agit d'un communiqué final que nous avons signé à la suite de nos travaux. Nous avons parlé de la question des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et nous avons insisté pour dire que lorsque une personne n'a pas encore été jugée, cette personne est présumée innocente. C'est le cas de l'ancien président François Bozizé Yangouven. La Ligue centrafricaine des droits de l'homme est une organisation non gouvernementale qui est apolitique, n'a pas la vocation à signer un partenariat avec un parti politique dont la mission est la conquête du pouvoir. Nous n'avons signé aucun partenariat, nous n'avons signé aucun accord. Et lorsqu'il y a de grandes questions de l'heure, les partis politiques et les organisations non gouvernementales peuvent se parler. Et c'est ce que nous avons fait. Et il faudrait que ce que nous voulons discuter rentre dans l'objet de notre mouvement qui est la promotion des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme et la protection des droits humains.
Actualité toujours liée à l'ancien président François Bozizé, c'est cette plaidoirie du Bureau national des taximotos auprès des autorités gouvernementales.
Le week-end dernier, des dizaines de mototaxis ont accompagné avec des coups de klaxon le véhicule de l'ancien chef de l'État qui sortait d'un salon de coiffure vers Lakwanga. Ce comportement qui a perturbé la circulation sur certains axes serait mal pris par les autorités qui aurait mis les conducteurs de taxi-moto dans le viseur des forces de sécurité. Déplorant l'attitude de leur père, les responsables de l'association demandent l'assouplissement des mesures prises contre eux, ces mesures qui les empêchent de circuler librement dans la ville. Franck Ngaïkom, secrétaire général de l'association des taxi-moto, est au micro de Eda Lotintiko.
Il s'agissait de l'action qui était passée le week-end sur l'avenue Boganda. Nous, les leaders des conducteurs de moto-taxi, nous dénonçons cet acte et nous ne voulons pas que cet acte-là puisse se répéter. Nous demandons pardon au gouvernement pour ces actes commis par ces égarés et le prix d'alléger les mesures prises ces derniers temps à l'encontre de notre organisation. Alors nous profitons de cette occasion de dire aux parents des conducteurs de moto-taxi et à certains nombres de conducteurs de moto-taxi qui veulent se mêler dans les affaires politiques. Nous sommes une association à caractère apolitique. Alors nous voulons juste lancer cet appel à tous les taxis moto de la République centrafricaine de ne pas se mêler dans les affaires politiques, mais plutôt de mobiliser nos forces, tous nos pensées, de lutter contre le virus corona.
La suite de cette édition nous conduit dans le 3e arrondissement de Bangui où l'augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 en Centrafrique inquiète les habitants.
Certains craignent un risque d'apparition de cette maladie dans le secteur en raison du non-respect des gestes barrières. Reportage au PK5 signé Rolf Steph Domialu.
Malgré la montée inquiétante du nombre de malades du nouveau coronavirus ces derniers jours à Bangui, le kilomètre 5 ne semble pas être concerné par cette crise sanitaire mondiale. Le poumon économique de la capitale centrafricaine tourne comme si de rien n'était. Les mesures barrières ne sont pas observées dans l'ensemble. Devant des magasins grossistes, restaurants et autres commerces, on trouve rarement des seaux d'eau et du savon pour le lavage des mains. Dans la foule immense dominée par des coups de klaxon, des bruits de moteurs et des musiques venant des lieux de vente, quelques passants mettent des masques de protection. Amat Hussein, boutiquier.
Une poignée de personnes respectent quand même les mesures barrières édictées par les autorités. Mais la plupart ne tient pas compte. Les autorités ont pris des décisions et nous devons l'appliquer.
Cet habitant de PK5 dénonce sous couvert de l'anonymat l'attitude hostile de certaines personnes concernant le port des masques.
Au début, on installait des seaux d'eau et des gels hydroalcooliques. À un moment donné, des personnes armées nous ont dit d'arrêter, qu'ils n'ont plus besoin de ces trucs au kilomètre. C'est ce qui fait que les gens négligent les mesures de protection.
D'accord. L'alignement des vendeuses de légumes est bondé de monde. Les risques de contamination sont trop élevés. C'est l'inquiétude de Suzanne qui est venue acheter des concombres.
Si cette maladie arrive au kilomètre 5, nous serons tous contaminés parce que les gens ne respectent pas les règles ici. Je demande vivement au gouvernement de penser au kilomètre 5.
À la tête du stationnement des taxis au rond-point Kudoku, ce chargeur dénonce le comportement de certains chauffeurs qui font des surcharges.
Certains conducteurs veulent transporter plus de 4 personnes dans leur taxi. À chaque fois, nous leur disons non. Pour éviter le coronavirus, on est tenu respecter les consignes des autorités.
Malgré la négligence de certains habitants, Alassane, lui aussi habitant de PK5, pense que la fin du Ramadan marquera la fin du coronavirus en Centrafrique.
Bientôt, le Ramadan va terminer. Nous dirons également au revoir au coronavirus. À force de beaucoup prier, nous allons chasser cette maladie.
Au kilomètre 5, les écoles sont fermées, mais les jeunes du secteur pratiquent le football dans la cour de ces établissements. Quelques buvettes sont opérationnelles en cachette. Certains habitants, conscients du danger qui les guette, appellent les autorités à ouvrir les yeux sur le PK5.
Rolf Steph Domialeux sur Radio Ndekiluka.
Autre secteur exposé au Covid-19 en Centrafrique, ce sont les médias. En cette période de crise imposée par le coronavirus, Inès, comment fonctionne-t-il?
Les différents organes de presse s'organisent tant bien que mal à assumer leur devoir d'informer la population. Mais à vrai dire, cette épidémie a bouleversé le rythme du travail. Alexia Félix Yangwandi a visité quelques médias ici à Bangui.
Le Covid-19 n'a pas seulement impacté négativement les entreprises commerciales, mais touche également le secteur des médias. Ici, nous sommes dans la rédaction de Radio Centrafrique. Un effectif limité d'au moins de 10 journalistes y travaille. Georges Vernier Pizingo, directeur de l'information, nous explique comment fonctionne cette station en cette période de crise sanitaire.
Nous fonctionnons sous un régime de service minimum pour éviter, n'est-ce pas, ce risque de contamination. Nous avons réduit l'effectif du personnel à 3 présentateurs dans la journée. Or, par le passé, ça nous faisait 6 présentateurs dans la journée. Au-delà des présentateurs, nous avons fait un planning des reporters, 2 ou 3 reporters dans la journée.
Nous quittons Radio Centrafrique pour le journal Confident. Là, le travail se fait en rotation. Mathurin Momé, directeur de publication de ce journal, raconte qu'il est difficile de trouver des sources d'informations pour le moment.
C'est difficile d'accéder aux sources d'informations. Vous pouvez arriver là, on vous dit d'attendre 2 à 3 heures sans pour autant avoir l'information.
Même chose du côté de Radio Fréquence RJDH, l'ambiance n'est pas vive comme auparavant. Judikaël Yongo, rédacteur en chef.
Avec ce effectif un peu réduit, nous avons pu développer des stratégies. Stratégies que même si les gens sont à la maison, ils peuvent aussi travailler pour qu'on puisse vraiment combler le vide. Parce que ces mesures ont eu des conséquences beaucoup plus sur les activités.
Pour éviter l'importation de cette maladie dans leur rédaction, certains organes de presse écrite, de stations radio et de télévision se sont procurés des seaux d'eau et des liquides désinfectants pour le lavage des mains. Bienvenue Bissayo, directeur d'information à la télévision centrafricaine.
Tôt le matin, tous ceux qui arrivent, les personnels relevant des différents services qui arrivent, ils ont cette obligation de pouvoir se laver les mains. C'est d'abord les premières règles d'hygiène pour barrer la route systématiquement à cette pandémie.
Malgré que la pandémie du coronavirus bouleverse le bon fonctionnement des organes de presse, ces derniers y restent toujours un partenaire très important dans la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation de masse.
Parlons toujours du coronavirus, 70 détenus de la maison centrale de Boire ont été libérés hier.
Cette libération fait suite aux mesures prises par le chef de l'État pour désengorger les prisons en cette période de crise sanitaire mondiale. Cette mise en liberté ne concerne qu'une catégorie de prisonniers. C'est ce qu'explique Achille Pacos Ogonidanga, juge d'instruction en charge d'application des peines au tribunal de grande instance de Boire. Il est au micro de notre correspondant Priva Rodrigue Lepanga.
C'est relatif à la pandémie du coronavirus où il fallait prendre certaines mesures pour éviter à ce que cela ne puisse avoir une certaine dimension dans certains milieux. Et donc on s'est vite rendu compte que la maison d'arrêt fait partie des milieux très sensibles à ce fléau. C'est pourquoi le chef de l'État a jugé mieux de prendre cette mesure pour que certaines personnes incarcérées telles que des mineurs, les femmes enceintes, les personnes plus âgées et encore d'autres qui ont des charges qui ne sont pas beaucoup plus pesantes puissent recouvrir leur liberté. Simplement parce que ils sont à la maison d'arrêt écroués, mais ils ont la visite de leurs parents qui viennent de dehors. Et si par malheur, un des parents visiteurs a contracté le virus et qui est venu assister son parent qui est à la maison d'arrêt, lui transmet ce virus, je vous avoue que pour une seule journée, toute la maison carcérale sera polluée par ce virus. Mais je le rappelle aussi que dans les termes de ce décret, cette libération ne met pas fin à la poursuite. Les bénéficiaires recouvrent leur liberté, mais l'action publique continue. Le juge continuera ses investigations sur les charges qu'on leur reproche jusqu'à ce que la procédure puisse arriver devant la formation du jugement.
Vous écoutez le journal de Radio Ndikeluka. Plus de 47 500 cas confirmés de coronavirus en Afrique. La pandémie a déjà coûté la vie à 1862 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine.
Oui, Verdian, l'Afrique du Sud compte 7 572 cas, 2746 guéris et 138 morts. Au Tchad, 178 cas confirmés, dont 39 personnes guéries et 10 décès. Au Cameroun, 2265 personnes touchées par le Covid-19. 953 sont déclarées totalement guéries et 64 morts. La République démocratique du Congo a enregistré 797 cas confirmés, 90 guéries et 34 morts. La République centrafricaine totalise à ce jour 94 cas officiellement confirmés par le ministère de la Santé, dont 10 personnes guéri et zéro décès.
À Boussangoua, les responsables de formation sanitaire et points focaux des districts renforcent leur capacité à travers une formation de 48 heures ouverte hier à la région sanitaire numéro 3.
C'est autour du thème surveillance épidémiologique des maladies. Docteur Dieudonné Kanguya, médecin-chef du district sanitaire de Boussangoua, s'en explique au micro de notre correspondant Raphaël Nganaré.
C'est la formation des points focaux des 8 districts qui constituent la région sanitaire numéro 3 basée à Boussangoua et des 28 responsables des formations sanitaires sur la surveillance épidémiologique. Nous parcourons des épidémies, tel est le cas de la pandémie liée au Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est de renforcer la capacité de ces personnels de santé pour que la surveillance épidémiologique soit vraiment active dans ces 8 districts afin qu'aucune maladie épidémiologique ne puisse échapper au contrôle de ces personnels. Et donc, nous craignons qu'il y ait des dégâts si jamais nos personnels n'ont pas reçu ce renforcement de capacité. Comme objectif, c'est de les outiller dans le système de surveillance des maladies à potentiel épidémique et qu'au sortir d'ici, qu'ils aient les instruments, les outils de travail qui puissent leur permettre d'être à l'aise dans la gestion des épidémies si jamais le cas s'avère nécessaire.
La page sport de cette édition, uniquement football Inès, Amores Dertin a déjà passé plus de 20 jours sous le verrou au Gabon.
L'international centrafricain attend son procès selon nos sources qui se trouvent au Gabon. Ici à Bangui, la mobilisation se poursuit pour obtenir une libération de footballeur centrafricain qui est sous contrat avec AS Pélican de Lambarini.
Football africain, les sélectionneurs nationaux sont souvent mal payés au détriment de leurs collègues expatriés.
Un témoignage de Florent Ibengue, l'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo entre 2014 et 2019. Selon lui, les dirigeants africains préfèrent les entraîneurs expatriés et leur donnent de grosses sommes que les locaux. Il souhaite que les bourses de formation soient octroyées aux techniciens pour qu'ils puissent se former à l'étranger. Florent Ibengue, interrogé par Bienvenue Bello.
De cette différence qu'on a entre les entraîneurs locaux et les entraîneurs expatriés, c'est vrai qu'il y a la différence déjà au niveau, je parle de moi, au niveau salarial, mais ça, encore une fois, il faut bien faire attention, c'est pas la faute de nos collègues entraîneurs expatriés, ça c'est la faute de nos dirigeants. Ce sont les dirigeants qui donnent les salaires, ce sont les dirigeants qui recrutent les personnes. Donc, il n'y a pas à jeter l'opprobre sur les autres, ce sont nos propres dirigeants, et ça c'est un véritable problème. Parce que de nos dirigeants en fait, hein, parce que moi je vois dans tous les domaines, quand on a un manque, on envoie les gens en formation. Donc si on estime qu'on a un manque à notre niveau, il faut nous envoyer en formation, donner des bourses pour que les gens aillent se former. On donne des bourses pour que les gens aillent se former en médecine, en droit, en économie, bref, dans tous les domaines, sauf dans le sport, ou quasiment, ou si peu. Donc si on estime qu'il y a un manque parce qu'on n'est pas au niveau qu'il faut, on refuse pas d'être formé. Donc là, un grand coup de chapeau aussi à la CAF qui a mis en place la formation professionnelle au niveau du Maroc, mais malheureusement elle s'est arrêtée parce que le DTN qui était là, Nasser Largué.
Fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Merci de votre fidélité d'écoute. Restez branchés pour la version en langue nationale.